Donc, bienvenue à cette conférence à trois voix, qui est votre dernière conférence de l'année. Eh oui, puisque là, il y aura la conférence de clôture, mais c'est un peu particulier, c'est une conférence ouverte. Donc, c'est la dernière conférence fermée. Merci infiniment au Père Vincent Leclerc, à Madame la rabbin Floriane Chinsky et à Monsieur l'imam Tariq Abounour de nous rejoindre pour cette conférence et d'avoir accepté ce dialogue à trois voix sur le thème évolution sociale ou sociétale, si on veut, familiale, quelle réponse des religions, point d'interrogation. Et un grand merci à Monsieur Franck Marowski de nous accueillir à l'Institut Elie Wiesel. Merci à l'Institut Elie Wiesel. C'est la deuxième fois que nous venons chez vous, Monsieur Doyen. Et c'est un grand bonheur de revenir, suite en plus à l'échange que nous avons eu. Je pense que ça augure de bonnes choses pour l'an prochain. Vous vous rappelez de la conférence à trois voix également sur l'herméneutique que vous aviez eue. C'est initialement M. Franck Laronski qui assurait la voix pour le judaïsme. Et pour les dernières années, à chaque fois, ce n'était pas possible pour vous. Donc voilà, vous y étiez heureusement remplacé, mais l'année prochaine, je pense que ce sera nouveau. Monsieur le Doyen, je vous laisse peut-être présenter en deux mots, quelques mots, en cinq minutes, l'Institut.
Merci à vous, vos chers amis. Vous êtes dans les locaux de l'Institut universitaire Elie Wiesel, qui est un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Académie de Paris comme enseignement supérieur, qui est essentiellement consacré aux sciences du judaïsme dans leur relation avec les sciences humaines et sociales. Et une des caractéristiques de notre institut, qui a été fondé il y a 15 ans, avec l'encouragement d'Elie Wiesel, qui nous disait combien il considérait comme important qu'il y ait un lieu où le judaïsme, dans toutes ses manifestations, s'exprime en France, cet institut se caractérise par le fait que nous avons des enseignements qui sont universitaires destinés au grand public. Notre objectif, faire en sorte que des enseignants-chercheurs qui ont beaucoup écrit, ont beaucoup publié, ont beaucoup enseigné, ont fait beaucoup de recherches, puissent s'adresser aussi au public général, pas simplement à leurs étudiants, mais aussi à tous ceux qui souhaitent une formation de bon niveau dans toutes les matières du judaïsme. Nous ne sommes pas un institut purement théologique. Nous avons des enseignements sur tous les aspects de la civilisation juive, l'art, la musique, l'architecture, l'archéologie, l'histoire, la philosophie, la Bible, le Talmud, etc. Une des caractéristiques de notre institution, c'est le désir de créer des liens avec d'autres institutions universitaires, d'autres sensibilités. Ainsi, par exemple, nous avons un contrat, nous avons une convention avec l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, et chaque année, des enseignants de l'Institut Wiesel partent donc en Belgique pour donner des conférences. On a en général 4 enseignants qui donnent des conférences à Louvain-la-Neuve sur différents aspects du judaïsme. Nous avons également maintenant signé une convention avec l'Institut de religion et société de Luxembourg pour commencer à travailler aussi avec eux dans la formation universitaire interreligieuse ou interconfessionnelle. De même, depuis 10 ans, avec la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg, qui a la caractéristique d'être une faculté d'État et théologique, qui est la seule, presque la seule en France de cette nature, nous organisons chaque année un colloque de sciences humaines et qui est consacré à différentes thématiques chaque année, qui réunit donc des chercheurs des différentes sensibilités et des différentes disciplines. Bon, l'idée dominante de l'Institut Wiesel, c'est que dans la société contemporaine, on ne peut pas simplement s'enfermer dans une sorte de cloisonnement de convictions. Il est nécessaire de partir à la rencontre des autres. Et pour le monde universitaire, il y a aussi une rencontre à accomplir. Rencontre à accomplir, par exemple, avec les institutions universitaires d'autres sensibilités. Et depuis quelques années, nous avons avec le collège des Bernardins, d'ailleurs, un groupe de recherche qui s'appelle « Judaïsme et christianisme ». Nous avons déjà édité un livre qui s'appelle « Repenser l'altérité » sur les deux premières années de cette activité du groupe de recherche. Et nous allons publier d'ailleurs d'autres ouvrages là-dessus. Bon, l'idée dominante, c'est que le monde des religions contemporaines ne peut pas vivre en vase clos, et à niveau universitaire, il faut qu'il y ait un dialogue. Il y a aujourd'hui un très grand effort de dialogue entre les différentes confessions religieuses au niveau de la société civile. Notre objectif, c'est aller au-delà de ces dialogues de la société civile et établir aussi une rencontre avec les institutions universitaires pour que des enseignants, des chercheurs, des doctorants, des étudiants des différentes disciplines dans différents milieux catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, juifs ou laïcs puissent se rencontrer pour réfléchir ensemble aux grands problèmes des civilisations contemporaines. Voilà. Cela dit, par la suite, vous aurez sûrement l'opportunité de voir un peu plus en détail ce que nous faisons dans cette maison. Mais entre-temps, un grand encouragement à votre organisateur, M. Guessou, parce que, effectivement, je sais que ce travail, le travail qu'il accomplit, est un travail du plus grand intérêt. Une société ne peut pas vivre dans l'ignorance de sa pluralité, dans l'ignorance de l'altérité. C'est un élément fondamental de la culture contemporaine. Alors, félicitations pour ce travail. C'est un très beau travail, un travail qui mérite d'être connu. Et bravo. Je vous laisse continuer vos recherches et vos études. Et bonne fin d'année universitaire.
Merci infiniment, monsieur le doyen. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Chers intervenants, chères intervenantes, c'est à vous la parole. Donc je rappelle le sujet, évolution des pratiques sociales et familiales, quelle réponse des religions? Alors on a tiré au sort par ordre alphabétique, donc il n'y a pas de tirage au sort. Donc c'est Arik Abounour qui ouvre. Avec, je vous avais posé grosso modo trois questions similaires, hein, peut-être refaire un point sur la façon dont votre tradition aborde la question sociale, familiale, la place de l'homme et de la femme, le couple, comment ça fonctionne, les questions du divorce, comment c'est réglé, les relations de même sexe, enfin, voilà. Reposer un peu le cadre, la pensée traditionnelle, je dirais, ou en tout cas de champ ontologique ou de pensée anthropologique de chaque tradition religieuse, pour derrière venir expliquer sur quel point il y a des évolutions sur lesquelles les postures religieuses se retrouvent en tension, et voir dans un troisième temps justement comment aujourd'hui, quel type de réponses sont apportées, est-ce qu'il y a donc constaté, j'en sais rien moi, une indifférence par rapport à la tradition, ce que dit la religion et les gens qui suivent la voie de ce que font leurs contemporains et s'en fichent un peu de ce que dit la religion. Au contraire, il y en a d'autres qui s'arc-boutent sur un certain nombre de pensées religieuses. Est-ce qu'il y en a qui font évoluer les pensées religieuses? Voilà. Ce dernier point est peut-être le plus critique. Donc 20-25 minutes chacun à peu près, on n'est pas obligé dans un format, un grand formalisme, vu la configuration de ce soir. Puis un petit temps d'échange entre vous, et ensuite échange avec nos chers auditeurs et auditrices.
Très bien. Bon, je pense que je vais faire le soin de micro. Et puis je me permettrai d'utiliser également le tableau de temps en temps pour que ce soit plus clair. En ce qui concerne l'islam, donc je vais parler de tout l'islam sans rentrer dans les détails doctrinaux, dogmatiques, on pourra les laisser pour les questions. Donc le soubassement, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre quand on s'attaque à la théologie musulmane, c'est qu'il y a ce qu'on appelle dans le droit musulman « qata'it ubutudilala », c'est-à-dire les éléments figé, immuable, et ce qu'on appelle vanni, tubut outilala, le terme jargon c'est celui-là, c'est-à-dire tout ce qui est n'est pas authentiquement transmis, soit interprétable évidemment par les sachants, par les références qu'on appelle le léoulam. Voilà. À partir de là, on comprend que le socle sur lequel tous les musulmans à travers l'histoire ont convergé, c'est ce premier. Pourquoi je commence par là? Parce que souvent, chez le commun, on a tendance à faire de l'amalgame, de la confusion, quand on n'est pas docte, entre l'idéologie, la politique, les cultures au pluriel, et la théologie. Et donc sur ce point, si vous voulez, je vais vous tracer un petit quelque chose d'assez simple, on va dire. C'est le temps, t égale 0, on va dire, juste pour schématiser. Donc ici, c'est le temps prophétique, le dernier messager, avec le texte scripturaire principal, qu'on appelle le Coran, sur 23 ans, avec des circonstances, parfois sans circonstances, et puis ce qu'on appelle la sunna, donc les deux grands socles, qui est donc ce qu'on appelle les traditions comportementales et orales de ce modèle qui est justement, on va dire, celui qui va ramener, transmettre ce que dit le divin, l'absolu, pour ceux qui croient à l'absolu. Voilà. C'est une transmission du ciel à la terre. Ensuite, on a une toute petite partie ici qui s'appelle la période des quatre califes. Voilà. Cette période était aussi une période de ijtihad, on appelle ça. C'est-à-dire une interprétation, une projection spatio-temporelle de ces deux éléments scripturaires. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré moins d'un siècle. Ensuite, on a tout ce qui est islam politique, idéologique. Voilà. Donc, notamment les Oumayyades. Vous allez voir l'intérêt de cette petite introduction dans quelques minutes. Les Abbasides. Les Ottomans. Et la période actuelle que nous vivons, où il n'y a pas vraiment de référent, il n'y a personne. Il y a pas mal de groupes, chacun se revendique la vérité, ce qu'on appelle la vérité, chacun se revendique étant le groupe sauvé, etc. Donc il n'y a pas vraiment de ce qu'on appelle l'époque des États-nations, ce que j'ai appelé dans mon livre les États-nations. Voilà. Il n'y a plus de base sur par rapport à laquelle on se réfère. Alors, très important, donc, pendant ces deux périodes-là, sont des périodes très courtes. Hein. J'ai dit que ça n'a pas duré 100 ans, c'est moins de 100 ans. On a défini effectivement ce qu'on appelle l'immuable, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'immuable. 2%, le variable, 98%. Toujours dans cette période, le modèle de tous les musulmans,
non, c'est moi, je...
Il y a, si vous voulez, sur la partie, on va dire, militaire, très exactement, 7% et 93% sur le reste. Ça, c'est ce qu'on appelle la SIRA. Dans cette partie militaire, ça se subdivise en 5 et 2%. Et c'est une partie, encore une fois, conjoncturelle de la partie 2% qui est immuable. Donc je vous laisse faire les pourcentages. Alors, tout ça étant dit, la première période de l'islam est une période où, effectivement, il a été question d'une période pré-islamique, ce qu'on appelle la jahiliya, où il y avait un certain nombre de mœurs, un certain nombre de cultures, etc. On remarquera que l'islam n'est pas venu avec un habit particulier. Il n'a pas demandé à ses premiers musulmans de s'habiller d'une certaine manière. Et il ne leur a pas demandé non plus de changer leurs habitudes, si ce n'est les habitudes un peu barbares, sauvages, comme manger les cadavres ou agresser les autres, etc. Donc, la partie culturelle n'a pas été touchée, si ce n'est les parties qui sont en contradiction claire avec les deux textes. D'ailleurs, les deux textes, dans les 23 ans, on a 13 ans à la Mecque, donc des textes qui s'attaquent au dogme, et 10 ans à Médine, des textes qui s'attaquent à l'organisation de la société, donc le rapport horizontal, la relation homme-femme, la relation avec ce qu'on appelle le gouvernement, ou le siyasa sharia, c'est-à-dire la politique, tout simplement. Et dans toute cette relation du texte avec ce contexte, il n'y a pas eu d'élément figé, ni sur la manière de gouverner. Est-ce que c'est une démocratie, pas une démocratie? Il n'y a pas eu de choses immuables. D'ailleurs, le prophète, quand il a envoyé ses messages aux autres rois du monde, il n'a pas demandé dans ses messages de changer le pouvoir en place. Il a juste exposé le nouveau message. Par exemple, dans sa lettre au roi de Bahreïn, il a dit « noble roi », etc. Il l'a reconnu comme roi. Il n'a pas demandé à ce qu'on enlève ce roi, à ce qu'on destitue le pouvoir en place. Chose que ne fera pas les Oumayyades, les Abbasides et les Ottomans. On est plus dans un islam de base, on est dans une islam politique. Donc dans cet islam de base, il n'était pas question d'imposer un pouvoir ou une façon de s'habiller ou une façon de parler. Les cultures étaient respectées. Il y avait bien des cultures en Arabie, plusieurs cultures. D'ailleurs, Médine va même être le théâtre de ce qu'on appelle la première constitution de Médine. Donc ici, dans cette petite partie constitution de Médine, appelée autrement la réconciliation avec les Juifs, où effectivement il y a plusieurs articles qui reconnaissent toutes les minorités religieuses de Médine et qui appellent à une communauté des croyants. Solidaire, très très important. C'est une constitution avec plusieurs articles qui peut être considérée, qui a été déjà considérée par pas mal d'historiens et de chroniqueurs comme la première constitution écrite du monde ancien, donc avec des droits, des devoirs, etc., avec un respect profond des autres religions, des autres minorités, etc., etc. Et puis il y avait des articles sur la femme aussi, le respect de la femme, la protection aussi des enfants, etc., des personnes qui sont dans leur couvent ou leur monastère, etc. Ensuite, il y a évidemment plusieurs évolutions de la société, notamment à Damas, premier pouvoir post-médinois avec les Oumayyades, et notamment à Cordoue, tout de suite après. Dans cette première évolution de la société, le rapport évidemment à l'autre a changé. Les vêtements ont changé, les habitudes ont changé, les cultures sont devenues beaucoup plus raffinées, la culture des palais, la culture des jardins, voilà. Et tout cela, évidemment, n'a pas été condamné par les juristes. preuve que, effectivement, cette façon d'habiller ou cette, la façon de penser ou les cultures en général ne sont pas condamnées par les textes. En témoigne le fameux récit authentique où le prophète de l'islam envoie un certain Mu'adh ibn Jabal au Yémen comme émissaire de la bonne parole et il lui dit « Comment tu vas juger entre ces personnes-là dans ce nouveau pays ?» C'était l'ambassadeur ou le messager du messager. Il a dit « Je vais juger selon le Coran. » Il lui dit « Si tu ne trouves rien dans le Coran, comment tu vas faire ?» Il dit « Je vais juger selon la Sunna. » « Si tu ne trouves rien dans la Sunna, comment tu vas juger entre eux ?» Il a dit « Je vais juger selon ma pensée, mon ijtihad, mon interprétation, ma façon de voir les choses, avec évidemment ce qu'on appelle les bonnes finalités, le bon sens. » Dans ce récit très important, qui fait référence pour tout théologien, on remarque qu'il ne leur a pas demandé de s'habiller d'une façon ou d'une autre. Il ne leur a pas demandé de changer leur dialecte. Il ne leur a pas demandé de changer leurs habitudes, que ce soit agricole ou autre. D'ailleurs, quand le prophète va venir à Médine, il va trouver certains contrats d'agriculture, par exemple le salam, où il s'agissait, par exemple, de demander un crédit de trésorerie pour pouvoir labourer la terre et prendre part après aux récoltes au mois de... Voilà. Pendant les moissons. Et il n'a pas abrogé ce contrat qui existait avant l'islam, il a juste demandé qu'il soit protégé par un délai donné, que le délai soit fixé pour éviter l'aléa, que la qualité de ce qui est demandé soit fixée également dans un contrat, que les choses soient écrites, soient protégées entre guillemets pour que les parties contractantes puissent être, ou leurs droits puissent être préservés. Alors, je dis tout ça parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur des éléments qui, à mon sens, sont des vrais détails. Le voile, par exemple. Ou le vestimentaire, en général. À cette époque-là, il n'y avait pas de débat sur ces éléments-là. Un certain Abu Lahab, grand ennemi de l'islam, s'habillait, enfin, ou les compagnons s'habillaient comme lui. Il n'y avait pas de souci de se distinguer par un habit particulier. Aujourd'hui, on va dire, si on se restreint à la France, l'habit est devenu une vraie promotion identitaire, loin d'être un reflet d'une religion. Promotion identitaire due à une rupture avec l'autre, due à une histoire personnelle, un manque de culture, un manque de science aussi, ce qui fait que beaucoup de gens se réfugient dans un vêtement particulier, pour montrer leur différence, pour insister sur cette différence. Alors que ça n'a pas de sens au niveau théologique, je dis bien au niveau théologique. Dans tous les textes de l'islam, vous ne trouverez rien sur la façon de s'habiller. Il n'y a rien. J'ai appris le Coran par cœur, j'ai la sunna, je fais les... Il n'y a absolument rien sur, sur une façon précise de s'habiller. Ou sur un mets, enfin, c'est-à-dire la façon de manger, un mets particulier, si ce n'est un ensemble fini, une liste finie d'interdits. Tout ce qui est en dehors de cette liste est autorisé. L'islam fonctionne comme ça. La règle, c'est la licéité. Le droit musulman fonctionne de façon un peu différente. C'est que la règle, c'est que tout est halal, tout est licite. Sauf ce qui a été formellement identifié comme illicite par le texte scripturaire. On n'a pas le droit d'inventer des choses et dire que c'est illicite. Parce que le seul législateur, c'est Dieu. C'est lui qui a rendu un certain nombre de choses illicites, et c'est une liste finie, définie et finie, conformément au verset, et vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, sauf s'il y a contrainte. C'est un verset très important de la sourate Al-An'am. Il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, sauf contrainte, si vous êtes contraint à quelque chose. La contrainte, c'est autre chose. Très bien. Donc, à ce niveau-là, donc, si... je ferme la parenthèse sur la question vestimentaire ou sur les cultures en général. L'islam a toujours donné une place très importante aux cultures, puisque tout simplement, il les a reconnues en tant que telles. Au point même que, par exemple, dans l'école malikite, deuxième école de droit en islam, on a dans les sources secondaires de cette école ce qu'on appelle al-urf, c'est-à-dire la coutume. Comment ? Il y a même des ouvrages énormes qui justement prennent
en considération la culture, les coutumes des gens, leurs habitudes, etc., dans la façon de se comporter, de juger. Le magistrat juge les gens en fonction, par exemple, s'il y a divorce, on va considérer aussi le dialecte, on va considérer les habitudes. S'il y a pension alimentaire, on va calculer cette pension alimentaire en fonction de l'endroit, de la région, de la coutume. Donc un certain nombre d'éléments dans le droit musulman qui sont effectivement affectés, influencés par l'offre, par la coutume, par ce qu'on appelle la vie des gens. Il faut donc considérer la vie des gens. Deuxième élément très important, en islam, la femme est un être humain à part entière. Parce qu'il y a eu des débats entre théologiens de plusieurs religions sur le statut de la femme. Elle a sa propriété privée en islam. Elle garde son identité, c'est-à-dire quand elle se marie, elle ne perd pas son nom de famille, puisque toute atteinte à la filiation en islam est interdite. Ça fait partie des cinq objectifs nobles de la religion musulmane. Préservation de la filiation, donc on n'a pas le droit de lui faire porter autre que le nom de son père pour garder sa filiation. Et le contrat de mariage, il est fait préférentiellement en bien séparé, puisque la femme a sa propre propriété, a ses propres biens, ses propres moyens, etc. Ils sont indépendants donc de l'homme. Elle n'est pas, il n'y a pas fusion quand il y a mariage. Voilà, ça c'est très important. Autre élément important au niveau du mariage, c'est que l'homme comme la femme, il y a un consentement mutuel. Il n'y a pas de possibilité de mariage forcé ou de contrainte. Donc, si dans certaines cultures vous entendez mariage forcé, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, les idéologies, des éléments qui étaient avant l'islam, qui ont pu survivre après l'islam, comme par exemple dans des régions d'Afghanistan ou autre, où on a encore du droit coutumier qui n'en pas est considéré, mais qui prévaut malheureusement. Les questions d'héritage également, on a 18 cas où la femme hérite plus que l'homme. 11 cas où il hérite la même chose, et deux cas où l'homme, l'homme hérite deux fois plus que la femme. Je ne vais pas détailler ce point, on peut y revenir avec des précisions, j'ai même des schémas. Donc, finalement, la question du divorce également, ou du mariage, ou de ce qu'on appelle le droit civil, il faut considérer l'évolution du monde moderne, ce qu'on appelle aujourd'hui l'inscription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les temps anciens, on pouvait avoir un mariage avec deux témoins, l'échange de consentement et au revoir. De nos jours, ce n'est plus possible. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que tout simplement, les temps ont changé. Pour préserver les droits des deux parties contractantes, il faut une inscription. C'est ce qu'on appelle encore une fois dans le droit musulman Sadd al-Dara'a, la prévention de l'inconvénient, qui fait partie du jugement du droit secondaire dans le droit musulman. C'est-à-dire, pas seulement en France, hein, dans les pays musulmans également, moi, imam, je ne peux pas officier, présider un mariage si je n'ai pas en amont un acte de la mairie. C'est-à-dire si je n'ai pas le mariage civil. Je n'ai pas le droit de faire ça dans ma religion. Avant que la loi me l'interdise, ma religion me l'interdit. Pour la simple et bonne raison que je ne peux pas me permettre d'unir deux personnes comme ça sans aucune inscription qui préserve les droits des deux parties contractantes. Parce que c'est un contrat. Et donc il faut qu'il soit inscrit. Les deux témoins ne suffisent plus. Il faut que ça soit inscrit pour que, évidemment, on évite les aléas, si l'homme meurt, par exemple, ou la femme meurt, etc., qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas inscrit, personne ne va reconnaître qu'il y avait un mariage. Et le cas est déjà arrivé. En France, par exemple, il y avait quelques couples qui se sont mariés sans inscription du mariage. La femme était enceinte. Il y avait une maison qui a été achetée au nom du mari. Le mari a eu un accident, il est mort. On est venu, mais qui êtes-vous, madame? Donc, c'est un vrai problème. Après, pour relier cette femme à cette maison et lui donner tous ses droits et préserver justement les droits de l'enfant à naître, puisque évidemment il n'y avait aucun contrat dans le cas d'espèce. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très important. Après, dans les relations hommes-femmes, il faut savoir que l'islam considère la femme non pas comme un objet de désir, comme ça peut l'être dans certaines sociétés, mais comme un complément de l'homme. Et l'homme aussi est un complément de la femme. Et il y a une espèce de nature chez l'homme et la femme pour qu'ils puissent s'unir, pour qu'ils puissent parfaire ce qu'on appelle leur mission. Et l'islam conçoit cette relation entre l'homme et la femme dans le respect mutuel et dans cette rencontre qui ne peut être intime que dans le cadre d'un mariage. Pour la simple et bonne raison qu'il faut préserver, encore une fois, la filiation. Et donc, à l'époque déjà du prophète, la première époque, il y avait des femmes qui sortaient au marché. Il y avait même Oumar Omara qui avait défendu avec son épée le prophète contre les polythéistes oppresseurs. Donc il n'y avait pas ce souci, entre guillemets, de voiler la femme, de la mettre en dehors de la société. Bien au contraire, il y avait même une femme qui a arrêté le calife Omar II en plein prêche du vendredi alors qu'il voulait limiter ce qu'on appelle les dots. Et lui a dit, tu ne peux pas faire ça. En pleine mosquée. Et je vous fais remarquer, comme elle l'a arrêté en pleine mosquée, ça veut dire que les mosquées étaient mixtes. Donc ça, c'est dans les périodes que j'ai dit, de T égale 0 jusqu'à T égale 70 à peu près, nos mosquées étaient mixtes. Les hommes et les femmes priaient dans un même endroit. Il n'y avait pas une mosquée pour les femmes et une mosquée pour les hommes. Plus que cela, dans l'évolution de la société, par exemple en Andalousie, vous pouviez avoir des ministres femmes, y compris des ministres de culte. On trouve ça chez Tabari, chez Ibn Arabi, etc. Donc il y a pas mal d'éléments comme ça. On est déjà, il y a 1000 ans, hein, on est dans le 5e siècle de l'Égypte, à Cordoue. Dans la relation avec le corps humain également, vous avez les premières autopsies qui ont été faites par un certain Averroès Ibn Rushd, qui est d'ailleurs celui qui a, entre guillemets, découvert ce le liquide qui a porté son nom, le liquide rachidien, Ibn Rushd, le liquide rachidien, etc., etc., dans un moment où l'Europe était effectivement encore un peu dans les superstitions, elle n'avait pas encore fait sa renaissance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est très très important à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces moments de gloire de l'islam et aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé entre un monde musulman où la femme pouvait voter, pouvait se marier, avait sa propriété privée, avait sa liberté, où la relation homme-femme, il n'y avait pas de problème, nos mosquées étaient mixtes, il y avait des femmes théologiennes, des femmes qui transmettaient, et d'ailleurs l'une des premières transmetteuses c'était des femmes, Aïcha, 2210 traditions à elle seule, numéro 4 dans la transmission. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et aujourd'hui? Au point même qu'on est en train de stigmatiser l'islam et les musulmans par rapport à la relation avec les femmes, par rapport à cette déchéance civilisationnelle, morale, Daesh, Al-Qaïda, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est très important, c'est le point de chute si vous voulez, dans les deux sens. Ce qui s'est passé, c'est que à partir du 19e siècle, l'homme malade de l'Europe, l'Empire ottoman, qui servait encore de verrou, de protection, de référent, d'union, d'organisateur entre guillemets du monde musulman, quoi qu'on dise sur lui, sur ses façons de faire, etc., parce que il n'était pas en odeur de sainteté non plus, mais au moins il avait ce privilège et cet avantage d'arrêter l'hémorragie, au moins pour un moment. Eh bien, juste avant sa chute, 1924 donc, il y a une émergence d'un mouvement en 1750, à Najd, l'actuelle l'Arabie Saoudite, l'actuelle Riyad, la région, le plateau de Najd. Ce mouvement littéraliste s'est proposé comme la cinquième école. Vous savez, dans chez les sunnites, on a quatre écoles. Quatre écoles sunnites, quatre écoles chiites. Donc ce mouvement, à partir de 1750, il s'est proposé comme la cinquième école. Cette cinquième école, en fait, elle s'est dit, tiens, les Ottomans, c'est des mécréants, les Ottomans, c'est des non-arabes, des non-Qurayshis, donc ils n'ont pas le droit de gouverner au nom de l'islam. Ils ne sont pas très, très orthodoxes parce qu'ils s'habillent d'une façon un peu bizarre. Ils ne parlent pas l'arabe. Et puis, on voit que les musulmans, aujourd'hui, ils ont le culte des saints. Il y a des ulamas qui sont référents, ça, c'est pas bien, etc. Et donc, ils se sont révoltés contre le pouvoir temporel. Ils se sont révoltés contre l'évolution de la société moderne. Et comme ils avaient un ennemi commun avec la Grande-Bretagne, eh bien, la Grande-Bretagne a trouvé dans ce mouvement naissant un très bon allié. Et là, religion et politique vont se mêler. Et on va voir ce qu'on appelle le pacte de Nejd. Je vous conseille le livre qui porte le même nom. Le pacte de Nejd, ou comment l'islam sectaire est devenu l'islam. De Hamad al-Redisi, qui est un formidable résumé d'histoire moderne, qui est très méconnu, pas seulement par les musulmans, mais également par les non-musulmans. Et effectivement, à partir de là, on a la nouvelle organisation du Moyen-Orient, et même du monde musulman, à travers ce pacte de Nejd. Et donc, ce nouveau islam, prôné depuis Nejd, va d'abord déclarer la guerre sainte aux référents, aux musulmans. Un savant musulman qui était au Hijaz, c'est-à-dire à Médine et à la Mecque. Il va déclarer la guerre à l'Égypte. Il va déclarer la guerre au Maghreb, etc., etc. Et puis ensuite, évidemment, il va un petit peu reculer militairement. Et avec le pétrole, son jihad ou sa guerre sainte va se transformer en une guerre intellectuelle, idéologique, culturelle, pour transformer, pas seulement le monde musulman, mais le monde entier en un monde binaire, c'est-à-dire halal haram. Pas de spiritualité, pas de moralisation possible. Donc, il faut être des machines. C'est-à-dire, c'est l'islam machinal. C'est comme si le Coran et la Sunna, il faut les suivre de façon robotique. Donc, il y a une relation assez verticale avec le texte, avec une impossibilité d'adapter le texte au contexte, avec une question fondamentale qui est que votre rapport avec le Coran et avec la Sunna, il doit être individuel, sans passer par le savant. Et ça, c'est un grand danger dans l'islam. Et donc, ce qui a donné naissance à Daesh, ce qui a donné naissance à Al-Qaïda, parce que le Coran est un texte avec 1400 ans d'histoire, avec 23 ans de circonstances. N'importe qui ne connaît pas ces circonstances. Si on prend un texte en dehors de ces circonstances, en dehors de son contexte, évidemment, on ne peut que s'égarer. Et donc, cette nouvelle idéologie, cette nouvelle secte, cette nouvelle école, prenait une relation directe avec le texte. Et ça, c'était effectivement un grand danger qui, aujourd'hui encore, nous fait souffrir et fait qu'on a un certain islam qui devient de plus en plus majoritaire, qui n'a plus cette possibilité d'évoluer, de faire évoluer sa société. Puisque c'est cette secte-là, tout compromis avec le modernisme est banni. Voilà. Ce qui fait que l'évolution de la société, la révolution industrielle, tout le reste, n'a pas été, tout simplement, dans le monde musulman. Il y a eu un blocage, entre guillemets religieux, je mets bien entre guillemets religieux, des musulmans, une sclérose, même des savants musulmans, à partir du moment où cette secte est devenue l'islam. Grâce à quoi? Grâce à la prolifération de ces idées à travers les livres, et puis ensuite à travers cher Google et cher Facebook, qui aujourd'hui, malheureusement, font le bonheur de nos jeunes, qui ne cherchent plus les savants, mais cherchent évidemment les éléments de cette secte-là, qui sont majoritaires, quoi qu'on dise aujourd'hui, quand on cherche le mot islam sur Google, on tombe justement sur les avis de ces gens-là, et non pas, et il faut vraiment être, il faut persévérer pour trouver les vrais avis des savants. Ça, c'est très très compliqué, et on a encore du mal à s'en sortir, même à l'heure où je vous parle, malgré la chute morale du royaume d'Arabie Saoudite, on a encore du mal à s'en sortir par rapport à ces situations très délicates, très difficiles, qui nous empoisonnent, qui nous bloquent depuis 1924, très exactement. Et on a cette tendance qui a changé aujourd'hui la relation avec la femme, qui a changé la relation avec la modernité, qui a changé la relation avec la société tout simplement. Et on n'est plus dans un schéma qui obéit au schéma initial d'une religion qui s'adapte au contexte, avec très peu d'immuables, de pourcents, mais on a transformé ce qui était variable en immuable, et donc on est devenu une religion formelle, machinale, robotique, avec voilà ce qu'il faut faire, et voilà comment vous êtes, vous devez vous organiser. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Alex. Merci d'être intervenu en premier déjà, hein, c'est jamais facile. Puis j'imagine qu'il y aura des questions, on aura le temps de revenir vers toi.